Bienvenue pour notre exploration des actualités africaines. On se base sur les dépêches d'Africa Press du 22 mai 2025. Aujourd'hui, on va regarder un peu les dynamiques économiques, mais aussi judiciaires et sécuritaires dans plusieurs pays. On va parler par exemple du potentiel du karité au Tchad, des ambitions minières du Cameroun. Et puis, il y a des affaires judiciaires importantes au Bénin, en RDC, au Sénégal aussi. On finira par un point sur le Sud Kivu. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essentiel, de comprendre ce qui se joue. Ok, alors, on décortique tout ça. Commençons par l'économie. Au Tchad, le karité, ça semble être une mine d'or potentielle, non ?
Une étude de la FFI.
Oui, la Société Financière Internationale, c'est ça. Elle parle de 82 millions d'arbres et une capacité de production, tenez-vous bien, entre 380 000 et 800 000 tonnes par an. Mais bon, la réalité, l'ANI, l'agence tchadienne, disait en 2019 que seuls 4 à 5 % étaient vraiment exploités. C'est fou cet écart, non ?
Ah oui, c'est énorme. Et c'est bien ça toute la question. Le potentiel est là, clairement, mais il est très très sous-exploité. Et la SFI, elle insiste beaucoup sur un point. Le Tchad gagnerait bien plus à transformer les noix sur place en beurre.
Plutôt que d'exporter les noix brutes ?
Exactement. C'est la transformation locale qui crée la vraie valeur ajoutée, les emplois, tout ça. On parle d'un marché mondial hein, qui pourrait passer de 2,4 milliards de dollars en 2024 à presque 3,7 milliards d'ici 2030. Ne pas transformer, c'est laisser filer une grosse partie de cet argent.
D'accord. Et qu'est-ce qui bloque alors concrètement cette transformation sur place ? C'est quoi le frein principal ?
C'est surtout un manque de structuration de la filière. Il faut tout organiser. La collecte des noix, aider les coopératives à se monter, à se renforcer, rendre le secteur plus visible pour attirer les investisseurs, et puis adapter le cadre légal aussi.
Mmh.
La SFI, d'ailleurs, elle propose des pistes. Revoir la loi agro-silvopastorale, donner un coup de main technique aux producteurs, partager les risques pour que les banques prêtent plus facilement, et bien sûr faire de la promotion. Aller voir des groupes comme l'Occitane, The Body Shop, ce genre d'acteurs.
Très clair. Restons sur l'économie, mais changeons de pays. Le Cameroun. Eux, ils veulent que les mines deviennent un nouveau moteur, à la place du pétrole, quoi. L'objectif, c'est 15 projets miniers d'ici 2027. Il y a une annonce d'Oriol Resources, là, sur l'or. Ça semble encourageant.
Oui, l'ambition est là, c'est sûr. Ils visent gros, avec des projets importants dans le fer, comme Malam ou Kribilobé, mais aussi la bauxite, l'or, oui. Mais attention, le chemin n'est pas si simple.
Ah, pourquoi ?
Déjà, il y a le nouveau code minier de 2023. Il faut rassurer les investisseurs avec ces nouvelles règles. Ensuite, il y a ce gros conflit avec Sandes Resources sur Malam. Ils réclament des milliards, quand même.
Ah oui, j'ai vu ça.
Et puis, n'oublions pas la suspension du Cameroun de l'ITE en 2024.
L'initiative pour la transparence.
C'est ça. C'est un standard mondial important pour la bonne gouvernance dans les mines. Être suspendu, ça envoie pas un super signal aux investisseurs. Donc oui, ambition, mais pas mal de défis aussi.
D'accord. Bon, on change de thème. Direction le Bénin. Une affaire de corruption présumée qui touche l'agrément des partis politiques. Deux hauts fonctionnaires et Richard Bonnier-Wourou, le fondateur du parti Le Libéral, sont inculpés par la CRIE.
Oui, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'affaire tourne autour de soupçons de paiement. On parle de 7 millions de CFRA, selon Wourou, dont 5 auraient été retrouvés chez un fonctionnaire pour faciliter l'agrément de son parti.
Et ça tombe dans un contexte particulier, j'imagine.
Tout à fait. C'est le contexte préélectoral pour 2026 qui rend ça très sensible. Le président Talon ne se représente pas, donc ça ouvre le jeu. Et cette affaire, elle repose des questions sur la transparence du financement des partis et aussi sur la CRIET elle-même, qui est souvent vue comme, disons, pas toujours impartiale.
Passons à RDC. Là, c'est carrément le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est visé. Une demande de levée de son immunité parlementaire. Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
Alors, les soupçons portent sur un détournement présumé de 19 millions de dollars. Cet argent viendrait du FRIVAO.
Le fonds d'indemnisation pour les victimes de la guerre avec l'Ouganda.
C'est ça. Et cet argent aurait servi à financer un centre pénitentiaire via un marché de gré à gré, donc sans appel d'offres, ce qui est déjà problématique. L'affaire est d'autant plus complexe qu'il y avait déjà des tensions apparemment entre le ministre et le parquet général. Une ONG locale, l'ASADO, appelle d'ailleurs à la prudence. Ça pose vraiment la question de l'utilisation de ces fonds d'indemnisation et, encore une fois, de l'indépendance de la justice.
Et toujours dans le judiciaire, mais au Sénégal cette fois, une première historique avec l'inculpation de 3 anciens ministres de Macky Sall par la nouvelle haute cour de justice. Ça, c'est marquant, non?
Ah oui, c'est une première. Cette cour, elle a été créée fin 2024, justement pour juger les ministres pour des actes commis dans leurs fonctions. Et là, paf, elle est activée. Ismaïla Madiorfal, Aissatou Sophie Gladima, Salé Mata Diop, ils sont visés pour tentative de corruption, détournement, complicité.
C'est un signal fort.
Oui, un signal fort en matière de redevabilité des politiques. Mais ça commence déjà à faire débat.
Ah bon? Sur quoi?
Sur le fonctionnement de la Cour elle-même. Par exemple, il n'y a pas de possibilité d'appel. Certains juristes disent que ça pourrait poser problème au niveau des droits de la défense. Donc, on a ce débat. D'un côté, la volonté de lutter contre l'impunité et de l'autre, le besoin de respecter tous les standards judiciaires. C'est compliqué.
On termine avec la RDC, au sud Kivu. Le gouverneur Jean-Jacques Purussi est réapparu publiquement à Uvira. Ça faisait 3 mois qu'on ne l'avait pas vu depuis la chute de Bukavu aux mains de l'AFCM-23. Qu'est-ce que ça signifie ce retour?
Avant tout, je dirais que c'est un geste symbolique. Il appelle à l'unité, à la résistance. C'est pour essayer de remobiliser les esprits. Mais bon, sur le terrain, la situation reste hyper tendue.
C'est-à-dire?
L'autorité de l'État est très faible là-bas. Il y a toujours des tensions entre l'armée, les FARDC, et les milices locales, les Wazalendo. Les combats continuent avec les groupes alliés à la FCM-23, comme les Tuerwaneo, Red Tabara. Et puis, il y a les problèmes internes à l'armée. Corruption, désertion. Donc, ce retour du gouverneur, c'est important symboliquement, mais ça ne règle pas les défis militaires et les divisions sur place, quoi.
Bon, si on essaye de résumer cette semaine, on voit une Afrique vraiment en mouvement. D'un côté, un potentiel économique, comme au Tchad, qui est immense, mais qui peine à se concrétiser à cause de problèmes de structure. De l'autre, des systèmes judiciaires qui sont mis à l'épreuve avec des affaires très sensibles, souvent dans des contextes politiques complexes. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, non?
Absolument, c'est très contrasté. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale. Pour l'avenir de ces pays, qu'est-ce qui sera finalement le plus déterminant? Est-ce que ce sera leur capacité à enfin exploiter et gérer durablement leurs richesses naturelles, comme le karité ou les mines? Ou est-ce que ce sera plutôt la force de leurs institutions démocratiques et judiciaires? Leur capacité à construire un état de droit vraiment solide, indépendant, qui fonctionne pour tout le monde? C'est peut-être ça la vraie question de fond.